Les vieux copains, Léo Ferré qui est l'invité de Pollen ce soir. Chanson superbe qu'on a passée tout de suite quand on a reçu ce double album.
Je salue Pollen et je salue mon ami là. Qui...
Parce que Léo fait jamais les choses à moitié. Un double album. Il y a des chanteurs qui ont une longue, longue carrière derrière eux et à qui on rend des hommages. Léo Ferré, on lui rend pas d'hommage, mais il sort des doubles albums. Il continue à faire des chansons plus que jamais. Je suis sûr que tu en as encore dans tes tiroirs.
Ah oui, sûrement. Mmh.
Les vieux copains, il y a un moment où tu dis, je suis un de ceux-là, mon Dieu, rendez-moi la folie. Est-ce qu'à un seul instant, la folie a quitté Léo Ferré ?
Je crois pas.
Ouais.
Des fois, je fais semblant pour pouvoir passer dans la rue sans qu'on m'emmerde.
Et pourtant, quand même, tu représentes pour beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes, beaucoup d'amoureux de la chanson et de la vie. Tu représentes de plus en plus le sage.
D'accord, mais la folie, c'est la raison du sage. Hein. Mmh. Il ne le dit pas, quoi.
Alors, je voulais te présenter Laurence, qui est dans ses petits souliers.
Je suis complètement impressionnée et complètement émue.
Bonjour, Laurence.
Bonjour, Léo. Parce que j'ai l'impression que quand on dit quelque chose à Léo Ferré, ben, on ne peut dire que des bêtises. Pour moi, c'est effectivement un sage qui détient un petit peu comme une vérité.
Ah, mais lui arrive d'en dire des bêtises. Hein.
Moi, non, alors, c'est pas possible.
Sa femme me l'a dit. Mon mari m'a dit des fois, il dit des bêtises. C'est vrai. Mais tu peux pas te retenir, hein,
non.
De toute façon.
Non.
Ouais. Cette révolte, elle est née le jour où tu es sorti du ventre de ta mère.
Oui. Oui, oui. J'ai pas fait ce qu'avait fait un de mes camarades que j'ai connu pendant la guerre, qui était un maître d'hôtel dans un hôtel. Alors, dans un coin d'hôtel, je mangeais un peu là de temps en temps. Il m'a dit, tu sais, un jour, Léo, quand je sortirai du ventre de ma mère, s'il n'y a pas la moquette, je retourne.
Comment est-ce qu'on peut toujours avoir la foi comme ça, comme vous l'avez ? Comment est-ce qu'on peut ne pas se fatiguer ?
Ben, je sais pas moi. Vous savez, dans l'amour, on ne peut pas se fatiguer.
C'est ça la recette. C'est l'amour, l'amitié, c'est donné.
Puis c'est pas une recette en définitive, parce que moi je connais pas les recettes, mais c'est l'amour, l'amitié, puis je te donne et tu me donnes quoi. Si je passe dans la rue, je vois quelqu'un qui est gentil, je salue, sinon je ne salue pas. Et lui, pareil, mais il passe sa route et moi la mienne. On n'a pas besoin d'armée, de flics et tout ça. Il hein. Faut supprimer les armes. Les armes, c'est la fin des... C'est même pas la fin de Kiki, là. Quand je parlais tout à l'heure, là. Kiki...
Dans le golf.
Saddam. Dans le golf, là. Ouais. Saddam Kiki. Mm. Ou Kiki Houssem. Au fond, Kiki Houssem, c'est peut-être mieux. Non, je sais pas. Voilà. C'est difficile.
Tes armes, toi, ça a toujours été des mots, des cris.
Je pense, oui. Moi, c'est pas des armes. C'est ma façon de vivre et de dire tout ce que je pense tout bas. Mais des fois, je pense tout haut, alors ça mélange. C'est embêtant. Mais c'est pas... La seule chance que j'ai, c'est de faire tout ce que je fais, que ça vienne de moi, donc je n'ai jamais eu de patron, quoi. C'est ça. À part mon père, qui était un patron, mais à ce moment-là, tous mes copains étaient comme moi, ils avaient tous des patrons. Merci beaucoup.
Ouais, c'est Christine qui t'apporte.
Ah oui, elle m'a apporté ça, un truc, c'est bon. C'est,
une petite gâterie, je sais pas ce que c'est une belle couleur. En
ah, fait, c'est ça. Bon, c'est du Campari, c'est sans eau, avec deux glaçons, et voilà.
Ah, c'est ce que tu bois dans tes champs de spaghettis.
Oui, c'est ça.
Comme disait Charlevoix. Qu'est-ce qui pousse Léo Ferré à être toujours sur scène ? Parce que tu pourrais continuer à faire tes chansons, à réunir les musiciens que t'aimes, enregistrer quelques disques de temps en temps, et puis vivre tranquille au milieu de... Mais il faut toujours que Léo reprenne la route.
Oui, oui, puis...
Puis pas à moitié, hein.
C'est pas... C'est mon... Comment dirais-je ? C'est ma façon de faire ce que je fais, quoi. J'aime pas tellement chanter sur la scène. Un jour, un journaliste m'a dit, vous avez le trac ? J'ai dit non, j'ai jamais eu le trac, parce que je n'aime pas tellement ça. Mais je le fais bien, évidemment, puisque je suis honnête. Et les gens comprennent pas, parce que j'estime que... le trac, ça me foutrait en l'air, quoi. Le trac, c'est terrible, quoi. Alors c'est une force, ça, évidemment.
De ne pas avoir le trac, mais...
Ah oui, c'est sûrement une force.
Tu l'as vraiment jamais eu, ou jamais. Alors ou tu le maîtrises?
Ah non, je maîtrise. Ah, ben, si je le maîtrisais, c'est qu'il serait là, il faudrait que je le maîtrise. Donc, non, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu du tout. Non, c'est une chance, ça, pour moi.
Dans ce double album qui vient de sortir, il y a une chanson sur les éditeurs. Il y avait un moment que tu ne les avais pas attaqués, hein, ou que tu n'en avais pas parlé. Que...
Oui.
Tes vieux démons t'ont repris. Pourtant, là, maintenant, t'es ton seul patron. Tu te produis toi-même.
Mais avant, non. Hein.
Ouais.
Alors, celui-là, il s'appelle Vison. Comment ça s'appelle? Vison, l'éditeur. Et alors, si tu permets, je vais faire Vison dans son bureau avec ce jeune guitariste qui lui apportait une chanson. Alors, mademoiselle, Jeannette, venez. C'est la secrétaire. Jeannette, oui, monsieur. Donnez-moi un peu le contrat. Préparez-moi le contrat, comme d'habitude. Oui, tout est à nous, tout ça, même ce qui n'est pas à nous est à nous aussi. Allons, marche comme ça, hein. Et puis le titre que m'a donné ce jeune guitariste-là. Allez dire à celle que j'aime que l'argent n'est pas le bonheur. Allez dire, il faut couper, là, c'est pas... Allez dire à celle que j'aime... après, on coupe, là, hein. Allez dire à celle que... Non, elle parle. Allez dire à celle que j'aime... Non, couper. Allez dire à celle que... Couper. Allez dire à... Couper. Allez dire... Couper. Allez, couper. Ah voilà. Ça va très bien. Et allez, tous sur le pont.
Léo Ferré, Vison, l'éditeur.
Léo, je voudrais vous lire un extrait, l'extrait d'un livre que vous n'avez pas lu, très certainement, puisqu'il sort ces jours-ci. Il s'appelle « Au large de la nuit » et il est signé Didier Varro, Jean-Louis Foulquier. Jean-Louis Foulquier, qui à l'époque est déserteur, il est tout jeune, et l'action se situe à l'occasion d'une fête du Parti communiste rochelais. Alors, il dit ceci. « Soudain, je vois atterrir sur la scène un mec étrange, comme sorti d'une bande dessinée. Sa crinière est déjà son auréole. Il chante la fiche rouge. Mon corps se fige à la seconde, tout à coup immobilisé par la splendeur du chant, tétanisé par la violence des mots. Je suis en arrêt, hypnotisé par le regard d'un tueur d'indifférence. Chaque crochet qu'il distribue est une charge d'ondes positives. Il chante et ça fait mal. Il chante pour apprendre à se battre pour l'essentiel. Il chante pour offrir cette énergie des conquérants de l'utile et la rage des seigneurs de l'amour. Il chante pour arracher l'écorce des cœurs hostiles à l'abandon. Il chante pour vivre avec la mort. Il chante pour anéantir les trouillards qui restent toute leur vie à genoux. Il chante pour empêcher les tyrans de tout poil de faire de la planète un carré définitivement domptable. Il chante pour nous tenir en éveil à jamais. Et ce jour-là aussi, je comprends que la vie ne sera plus jamais la même. Un homme venait de me doter d'un regard neuf. Ébranlé par un tel choc, je me précipite sous la scène pour me planter devant sa loge. Il m'ouvre sa porte pour me faire entrer. Sans un mot, il comprend qu'il a affaire à un adolescent soudain soumis à une renaissance inattendue. Il ouvre son tiroir pour en sortir un programme en velours rouge où se détache en lettres d'or le nom de Bobineau. Dans un silence impressionnant, il laisse glisser sa plume apparemment guidée par une conviction fiévreuse. Il me raccompagne jusqu'à la porte, non sans m'avoir offert son programme. À la lumière d'un printemps, un soleil de printemps, je me précipite pour lire sa dédicace. « Vas-y petit, bouffe de la merde et gueule à tous ces cons que c'est bon. » C'est signé Léo Ferré.
Oui, ça a été ma première rencontre avec... Léo Ferré, cette fameuse...
C'est toi qui a écrit ça?
Avec Didier Varro, oui.
C'est très fait. Bien écrit. Hein.
Et c'est vrai que j'étais venu voir les chaussettes noires.
Oui, c'est vrai.
J'avais 14 ans, j'étais allé voir Schmoll et les chaussettes noires, et j'ai rencontré Léo Ferré, et ça a quelque peu bouleversé ma vie. C'est de ta faute si j'en suis là. Mais c'est vrai qu'aussi, cette étincelle de révolte, et bien... On l'entretient bien, je dis bien on l'entretient bien, parce qu'on est encore un certain nombre de jeunes de 50 ans bientôt à continuer à écouter les chansons de Léo, et tant que ça va durer, on se sentira en sécurité. Tu tu es conscient de tout ce que tu as fait pour plein de chanteurs, plein de gens dans leur vie, avec tes chansons?
Je le sais, mais enfin, je ne suis pas conscient, je ne pense pas à ça, parce que...
Oui, heureusement.
Ouais. Je ne pense pas à ça, et ça me fait plaisir de servir à quelque chose, voilà.
Ça fait chaud au cœur.
Ça fait chaud au cœur.
Ouais. C'est vrai qu'il y a bien, bien longtemps, je crois, maintenant, les gens étaient quelquefois agressifs avec Léo Ferré, dans la rue.
Oui.
Ça a disparu, tout ça.
Ça a disparu, tout ça. J'avais été... comment dirais-je, il y avait un type qui avait fait un appel au meurtre, comme on dit, entre guillemets, quoi. Allez, balader Ferré, il nous emmerde, etc. Et ça avait marché, pour moi, ça avait été très grave, parce que j'avais une longue tournée, pendant 10-12 représentations, j'ai eu beaucoup de mal à chanter, des gens gueulaient dans la salle, et ce type, il s'appelle Jean-Edern Allier, quoi. Quand tu vois son œil qui est parpelège, tu comprends tout, hein. Oui, c'est ça. Je ne l'ai jamais rencontré depuis, mais si je le rencontre, j'y dirais deux mois, celui-là, hein. En tout cas, s'il m'entend, qu'il vienne me voir, quoi, hein. Voilà, c'est dégueulasse. À moins que lui, il prendra des flics avec lui, parce qu'il n'est pas courageux. Hein.
Oh, ça s'est un peu retourné contre lui, maintenant.
Ah oui, ouais. D'accord. Heureusement, c'est pas difficile. Hein. Pas difficile, non, mais c'est ignoble, ça. Moi, j'étais très ennuyé. Hein. La première fois, à Lille, il y avait 50 mecs dans les balcons qui avaient envoyé, à un moment donné, deux machins de rails, tu sais. Je sais pas, des boulons, mais énormes, comme ça. Et il y avait mon pianiste qui était aveugle, et puis moi, et c'est tombé par terre, heureusement. Si c'est tombé sur la tête de mon pianiste, par exemple, c'était dramatique. Hein. Alors ça, on laisse faire, on dit rien du tout. On dit rien, c'est formidable, ça. Et c'est toujours moi qui suis, si je vois un flic devant un théâtre où je vais chanter, je fais dire au flic, partez, monsieur, partez, parce que je deviens le flic si vous êtes là. Si un flic, c'est moi le flic. C'est tellement vrai qu'un jour à Poitiers, je crois, il y avait une femme qui chantait. Je chantais, moi, et papa, qui est un autre, je ne me rappelle plus. Et je chantais, et tout d'un coup, au troisième, quatrième rang des feux d'orchestre, je vois un mouvement, donc il y a des gens qui bougent comme ça. Et j'ai fini avec le chien, et à ce moment-là, je partais tout de suite, parce que sinon, je ne pouvais plus sortir du théâtre. Hein. Les gens m'en voulaient. Pourquoi? C'est comme ça. Et alors, je vois une blonde, une femme blonde de 35 ans, par là, qui vient vers moi et qui me dit « Pourtant, je t'aimais beaucoup, Léo. » Alors, je dis à Fro, qui était avec moi, je dis « Qu'est-ce que c'est ?» Il me dit « T'occupe, moi, je viens, on s'en va. » Et j'ai su que ce mouvement que j'avais vu au quatrième ou cinquième rang de la salle, c'était son mari, à cette femme, qui avait reçu une bouteille de bière pleine sur la tête. Donc j'étais venu le lanceur de bouteilles. Hein.
Léo, on te reproche aussi de temps en temps de te laisser aller à la sensiblerie, parce que quand tu es passé deux ou trois fois à la télévision, tu as eu des larmes. Et je dis, mais quand Léo pleure, c'est comme quand il pousse un coup de gueule, c'est qu'il ne peut pas retenir.
Oui, ça, c'est que Marie me dit toujours ça. Mmh. Il ne peut pas supporter que j'ai les larmes. Et si j'ai les larmes, elles viennent. Et puis, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est comme ça, quoi. Hein, bon, quoi. Mmh. Marie m'emmerde pour ça.
Oui, et puis
et
un homme...
T'entends, Marie, oui.
Oui, et un homme, ça a le droit de pleurer.
Ça a le droit de pleurer, mais les gens ne peuvent pas admettre, quoi. Moi, j'ai les larmes qui me viennent comme quand j'étais tout petit. Voilà, c'est tout.
L'enfance, ça revient souvent quand on discute avec Léo Ferré. Elle t'a jamais quitté, cette enfance?
Oh, je ne sais pas si elle m'a... Oui, elle m'a quitté quand même. Puisqu'on me dit que je suis un vieux machin maintenant depuis... Quand j'ai commencé à 50 ans, j'étais déjà un vieillard. On me disait, le vieillard, tu ne sais pas dans les journaux. Le vieux lion aux cheveux blancs. C'est extraordinaire, quoi. Les journalistes, ils devraient trouver d'autres formules quand même, hein. Les journalistes, en général, il y en a qui sont pas mal, mais il y en a qui sont pas très intelligents, quoi. C'est terrible. Et les gens croient ce qu'il y a dans les journaux, quoi. Voilà. Alors je dis, ne croyez pas. Ou alors allez faire le coup chez Kiki Hussein, ou Saddam Kiki.
Voilà. On pourrait peut-être leur souffler des images à ces journalistes. Comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous appelle?
Qui, moi?
Ouais.
Qu'on m'appelle pas. Moi, je suis un homme comme tout le monde. Dans la rue, je ressemble aux gens. Moi, je suis rien du tout. Hein. Moi, je suis quelqu'un... Vous savez, si on entend une chanson de moi au Mexique, si quelqu'un est chez lui avec son disque, il écoute, ou en Chine, ou en Allemagne, ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas besoin de le savoir. Voilà. Je suis devenu le type qui a écrit ça un jour, et le type n'a pas besoin de savoir que c'est moi. Voilà. À mon avis, c'est ça. Les poètes les poètes du 19e siècle, je dis Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, ont une vie abominable et ils n'ont pas su vivre de ce qu'ils faisaient, parce que c'était uniquement la poésie, et la poésie mise en musique, après, ça porte les paroles dans la tête des gens, dans l'oreille des gens, et c'est formidable, quoi. Ah, c'est terrible. Ça, il faut insister pour dire ça.
Apollinaire, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, c'est des vieux copains.
C'est des vieux copains, je ne les ai pas connus bien sûr, mais...
Mais tu les rencontres quand même toujours.
Je les rencontre, oui. Je les rencontre. Je voulais faire un jour une émission, une émission où on fait venir des gens, vous savez. Léo Ferré avec des amis qui viennent. Alors j'ai dit non, non, moi vous mettez 4 chaises vides sur la scène. Alors pourquoi? Il dit parce que je ferais venir... Rimbaud, Baudelaire, Verlaine et Apollinaire. Je leur parlerai et ils me répondront. On n'a jamais compris ça. Alors que je passe à côté, quoi. Hein?
Pourtant, toi, tu sais qu'ils seraient venus, ils te rendent visite.
Ils seraient venus, sûrement, ils seraient venus.
Ils viennent de temps en temps à la veillée en Italie?
Oui, moi je les vois quand je vais promener mon chien, je les vois toujours, je travaille. Je travaille. Même quand ils sont dans une plante, l'autre jour, je suis allé promener mon chien, ça m'avait tellement frappé que je raconte cette histoire. Parce que j'ai vu près du mur une plante pas tellement grande qui fait des capres. Et il pleuvait pas depuis longtemps. Et alors je suis arrivé, j'ai bu un peu d'eau au robinet avec un tuyau. Et puis je les ai rosés, quoi. Et je suis revenu le lendemain. Il faisait très soleil, ça avait séché, bien sûr. Et j'ai vu 3-4 plantes, 3-4 feuilles. Je ne sais pas si tu n'as pas vu ça, mais c'est extraordinaire. Qui bougeaient comme ça, qui me saluaient, tu comprends? Voilà. Ça existe aussi. Et c'est ça qui me fait pleurer. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Voilà. Alors je leur apprends.
Et quand tu rencontres Apollinaire ou Rimbaud au détour d'un chemin,
oui.
Que te disent-ils? Est-ce qu'ils sont contents de toi? Léo, ça va?
Vas-y, ils se chantent. Nous, si on avait chanté, on serait autre chose. Voilà. On aurait été autre chose, quoi. Leur chance a été d'avoir vraiment un génie extraordinaire qui a fait que bon, les choses se sont éditées malgré qu'il y ait des gens qui tapaient sur ces gens-là d'une façon incroyable. Lorsque Rimbaud a fait éditer à compte d'auteur, donc il a payé la saison en enfer à 500 exemplaires, il les a mis dans une cabane sur la terre, comme ça, une espèce de cave, et il a rien, il a dédicacé à Verlaine. Bon. Et ce truc-là a été acheté, je ne sais pas, il a été reçu par un président du Conseil d'État français. Je ne me souviens jamais de son nom, d'ailleurs ça ne sert à rien. Mais en tout cas, je te dis tout de suite, tu vas savoir qui est-ce. C'est un type qui a été assassiné en même temps que le roi de Yougoslavie à Marseille. Il était dans l'auto-découverte, là. Et bien alors, ce type avait trouvé, il a trouvé la saison en enfer. Il n'avait plus que 100, 180 qui étaient possibles. Les autres étaient toutes dégueulasses, hein, toutes saloperies. Alors, il est allé voir ce président-là en lui disant, voilà, j'ai trouvé 180, 200 livres de la saison en enfer. Qu'est-ce que je fais, monsieur le ministre? Tu sais ce qu'il lui a répondu, le type? Brûlez-les. Voilà.
Heureusement quand même que de temps en temps, les maisons de disques ou les éditeurs font des choses plutôt sympathiques, parce que grâce à toi, puis à eux, Apollinaire, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud,
oui.
Vont pouvoir aller se promener un petit peu partout, puisqu'il y a un coffret qui
sort
chez Barclay.
Ah oui, ça c'est le règne de la musique, du disque, qui est, c'est très triste en ce moment, parce qu'avec ce compact, il y a trop de choses, et les gens ne savent plus ce qu'on faire, ils rentrent dans un magasin, ils ne savent plus quoi acheter, les gens qui ne savent pas. Mais en tout cas, c'est formidable, parce que c'est d'une précision exemplaire et excellent comme diffusion. Voilà.
Donc t'es ravi que cette compilation, ce coffret de plusieurs CD sorte.
Oui, et je vais avoir beaucoup de difficultés, tu sais quoi, pour les écouter. Je n'écoute jamais les compacts, parce que j'ai écouté les disques des fois. Quand je fais quelque chose, j'écoute plus, ça m'intéresse plus. Enfin, en rentrant, je vais essayer d'écouter.
Bah, tant mieux si ça t'intéresse plus. C'est ce qui te pousse peut-être à continuer à faire des chansons.
Peut-être, oui. J'écris de temps en temps, quoi. Mais j'écris vite, alors ça va, quoi.
Est-ce que t'as pensé une seule fois, je veux pas revenir sur ton âge, mais est-ce que t'as pensé une seule fois à la retraite? Parce que quand même, ça fait beaucoup de bruit, on parle de la retraite, il y en a qui la veulent à 55 ans, il y en a qui la veulent à 60 ans. Et puis, apparemment, il y en a qui n'en veulent jamais de la retraite. Hein. Et non, tu en fais partie.
Oui, mais alors, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. J'étais à SSM, j'avais 52 ans. C'était pas terrible, quoi. 53 ans. Alors, je vais à Yandy qui m'appelle, il me dit, Monsieur Ferré, venez. C'était au mois de décembre. Et au mois de décembre, il n'y a pas de répartition, on ne touche pas d'argent à la SSM. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, voilà, il me donne un chèque de 5 millions de centimes, hein, 50 000 francs. Et alors, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, ça commence à être une avance sur la retraite. Je lui dis, mais si si je meurs, qu'est-ce que ça devient? Ah, c'est terminé. Et moi, j'étais avec Marie, j'avais dit avec Marie, on se marie pas, quoi. Si je meurs, qu'est-ce que ça devient? Eh bien, c'est fini. Et si je meurs pas, si je meurs et qu'il y a ma femme, alors il m'a dit, mais elle en touchera la moitié. Je suis rentré en Italie. On s'est marié.
Et vous avez fait des enfants, hein?
Voilà.
Ouais, parce que tu en as trois enfants.
Trois.
Ouais, quel âge ont-ils, là, maintenant?
13, 16, 20. Oui.
Alors, est-ce que tu es un papa qui suit de près les études de leurs enfants?
Non.
Est-ce que tu donnes des...
Non, pas du tout. Non.
Des directives?
Ah non, pas du tout. Ils le savent. J'ai toujours dit depuis, parce qu'ils ont l'oreille, pas toujours distraite, que l'autorité, le pouvoir, etc., ça n'existe pas, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est eux qui ont pris le pouvoir, quoi. Voilà, c'est difficile, mais jamais je pourrais dire aux enfants, tu fais ci, tu fais ça. J'essaye d'entendre, je me fous en rogne parce qu'ils parlent italien, ils parlent avec l'accent toscan, des fois, je ne comprends pas ce qu'ils disent tellement, ils parlent vite. Alors je râle, je m'en vais, etc., je gueule, et puis je reviens. Mais ils sont gentils.
Ouais, puis ils sont fiers de leur papa. Moi, je me souviens de l'aîné au Francophonie quand on avait fait la fête à Léo Ferré. Tu nous l'avais laissé d'ailleurs, tu nous l'avais confié pendant quelques jours. Et je me souviens d'un œil attendri de Léo Ferré s'apercevant que son fils s'intéressait aux jolies plantes qui passaient aux alentours et qu'il ne suffisait pas de donner de l'eau d'ailleurs. Hein. Et il s'intéressait aux jeunes filles et était assez fier et heureux de voir ça dans son œil. Et toi, tu t'intéresses toujours aux jeunes filles?
Toujours, oui. Ma femme a l'œil, hélas.
Marie est jalouse.
Très. C'est une espagnole. Oui. Une jalousie féroce. Mais gentil comme tout, elle est d'une générosité fantastique. Je n'ai jamais rencontré un être pareil.
Elle est souvent très 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 proche dans les coulisses, à côté du rideau.
Mais c'est pas trop. À la fin, elle vient comme ça. Sinon, elle est dans la loge, elle coud.
Elle coud.
Oui, comme sa mère.
Pendant que toi, tu es sur les planches et tu risques ta peau.
Oui.
Ton métier, ta vie, c'est un slalom.
Oui.
Je me souviens de cet instant, justement, au Francophonie de La Rochelle, où, pendant que tu interprétais un morceau et que tu dirigeais l'orchestre et de Nahon et les choristes, il y a quelqu'un qui avait poussé un cri pendant la chanson et ça t'avait mis en rage et tu lui avais dit « Ma vie est un slalom, t'as compris ?» Tu piques toujours des colères de temps en temps pendant tes tours de chant.
Ah, si on me dérange, oui. Ouais. Sinon, si on me dérange, je suis prêt à descendre dans la salle, à prendre le type par le truc, le sortir.
Mais là aussi, maintenant, il y a une qualité d'écoute, beaucoup de tendresse et d'amour entre le public et Léo Ferré. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Je me souviens des grandes périodes de Bobino, où souvent une partie de la salle venait pour t'empêcher de chanter et tu te battais pas comme un vieux lion, mais comme un beau diable.
Oui, je sais, mais j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Moi j'étais à 68, j'ai mis mon pied sur la porte pour pas qu'on la ferme, elle n'est donc pas fermée, alors j'ai dit aux gens, on va la pousser de nouveau. Et bien, j'ai jamais compris pourquoi les gens de 68 s'accrochaient derrière moi et étaient méchants avec moi. Et ça, j'ai pas compris, je sais pas.
Qu'est-ce que tu penses, justement, de toute cette période de 68, de toute cette jeunesse à l'époque qui voulait tout bousculer, qui poussait de beaux slogans, etc., et puis qu'on revoit bien des années après, souvent PDG en costume croisé, ayant un petit peu oublié qu'ils avaient fait des barricades.
Oui, je ne dis plus rien parce que tu viens de dire ce que je voulais dire. Voilà. Ça me tue, ça.
Ouais.
Et c'est... Ah, ça va. Les gens de 20 ans sont bien... ils ont 22 ans, après ils ont un petit métier, quelque chose, ils gagnent un peu de fric, hein. Ils se marient et c'est foutu. Ils deviennent bourgeois. Le monde est bourgeois. Le monde est bourgeois, il ne faut pas oublier ça, jamais. Le monde est bourgeois, et voilà, c'est tout, ça ne changera rien. Il faut dire, comme je l'ai dit à l'heure, il y a 10 anges noirs que je connais qui peuvent venir et mettre des armes. Arrêter les gens qui ont des armes. Tous les soldats, les flics, partent dans le monde entier, tout d'un coup, au même moment, et les fixer, comme ça, pendant 5 ans, ou 3 ans, sans qu'ils souffrent. Avec les fixer, le tiki met son fusil comme ça, sur la tête du type, il reste comme ça, dans le monde entier. Pétrifié. Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait le bonheur qui commencerait. Parce qu'après, lorsqu'on le libérerait, ma conscience, il laisserait tomber le truc. Voilà.
Un jour, Léo, tu, comme les copains, comme les vieux copains, tu vas partir, t'as des rendez-vous là-haut?
Non. Non, moi j'ai dit un enfer, tu peux toujours cracher à la gueule de celui qui t'y a mis. Voilà. Parce que si tu vas au paradis, t'es obligé de saluer un mec que ça. Tu te dis, je vais prendre une place, là, tiens, si je le salue pas, il va me laisser un peu de côté, tandis qu'en enfer, tu risques plus rien. Alors tu craches, voilà.
Est-ce que tu aimerais qu'on te rende des honneurs? En ce moment.
Ah, tais-toi, alors, c'est la fin du mot, c'est la fin des haricots, ça. C'est la fin des haricots. Le ministre de la Culture, à qui j'ai demandé deux ou trois choses pour des copains à moi, qui a été très gentil avec moi, un jour m'a écrit, il y a quelques années, à 5-6 ans, en me disant, voilà, je vous propose de vous faire immédiatement officier dans l'ordre de... Je sais pas, il y a une espèce de truc, tu sais, là.
Hein. Chevalier des arts et lettres, ou fessions?
Arts et lettres, oui.
Hein, la Légion d'honneur?
Oui. Ah non, pas la Légion d'honneur. Arts et lettres. Alors je lui ai répondu, vous savez, monsieur, moi depuis l'âge des 10 ans, je suis seul. Alors il n'y a aucune raison que maintenant, je sais. Il m'a répondu que j'avais raison. Ah! C'était à le dire, parce que ça me fait plaisir, ça.
Il y a une chanson, Clo-Clo, la cloche. J'aimerais que tu nous en parles un peu de Clo-Clo, la cloche.
C'est le Père Noël, quoi.
Ouais.
Oui.
C'est un conte.
C'est un conte, oui. Je fais ça parce que la Noël, c'est une rose extraordinaire pour les enfants, pour tous les enfants. Il ne faut pas oublier ça. Alors, si on peut faire quelque chose pour eux, je le rappelle aux gens, quoi.
C'est dans la tradition, comme la petite fille aux allumettes, comme les chansons qu'on chantait sur la butte.
Moi, j'étais à la maison, chez ma mère, il y avait une petite cheminée, toute petite, petite, parce que, hein, toute petite, et j'avais 4 ans, on m'a fait venir, on m'a dit, viens, le Père Noël va arriver. Alors on m'a fait venir un peu après, c'est ça, je suis arrivé, il y avait le Père Noël avec la barbe qui était descendu de la cheminée, quoi. C'était le mari, le beau-frère de ma mère, quoi, que j'avais pas reconnu, quoi. Alors ça m'a foudroyé, ça. J'ai été malade pendant 3 mois, couché. De trouille, quoi.
Et tu as fait le Père Noël pour tes enfants?
Non. Ah, ben, on leur achète des choses, mais je leur ai toujours dit que c'était une connerie, que ça n'existait pas, que c'était nous, les Père Noël.
Ouais.
Et dans une certaine mesure, ça les embête.
Parce que vous êtes sensible aux traditions et à toutes les fêtes et à tous les anniversaires et à...
Écoutez, par madame, quand une tradition est un don à quelqu'un qui n'a pas d'argent, alors je suis pour la tradition.
Mm-hmm.
T'es en Italie, définitivement?
Oui, parce que les enfants sont à l'école. Alors, un jour, je voulais partir d'Italie et dire, eh bien, on va aller en France. Marqué, ça leur aurait peut-être plu, ça leur aurait plu peut-être, mais non, c'est comme ça, quoi. Je suis là-bas, je suis d'origine italienne d'ailleurs.
C'est pour ça que tu as choisi ce
point d'Italie. Pour ça, les Italiens sont des gens qui sont pour eux, quoi. Ah, c'est les Italiens, nous l'héritage, c'est nous les Italiens. Moi je suis là-bas depuis 20 ans, je sais pas combien de fois j'ai chanté, mais pas tellement de fois. Hein. Ils se foutent, il n'y a que quoi. Il y a un type qui a gagné le festival de San Remo il y a 3 ou 4 ans. Il s'appelle Ramazzotti. Tu sais comment il s'est fait appeler? Hein? Eros Ramazzotti.
Eros, ouais.
Vous comprenez?
Ouais.
Incroyable. Alors, c'est une très, 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 très grande vedette, quoi. Alors, ça fout en l'air tous les principes, toute l'intelligence de la scène, l'intelligence de ce qu'on peut dire aux gens, si c'est fait pour mettre des sous d'abord dans la poche de l'organisateur et puis de l'artiste, faut finir, quoi.
Il y a quand même des gens aussi en Italie comme Paolo Conte.
Ah oui, mais enfin, il m'énerve celui-là.
Ah, il t'énerve?
Ouais.
Oh, j'aime bien, moi.
Ah oui, mais t'as le droit. Hein.
Ouais.
Pourquoi? Il m'énerve, avec son piano. Il m'énerve, c'est mon droit, quoi. Et il pense en France, il a du succès, hein?
Ben oui.
Oh là, ça m'énerve aussi.
Ça t'énerve aussi.
Ouais.
Dis-moi, si tu avais des souhaits à faire, là, maintenant, sur le monde, sur la vie, sur ton métier, qu'est-ce que ce serait?
Soyez heureux quand vous pouvez, et le bonheur, ça se pique, on ne vous l'apporte pas sur un plateau d'argent. Alors piquez le bonheur quand il passe, hein. Pour vous seul. Si vous voulez en distribuer un peu après, oui d'accord, mais le bonheur, ça se pique, ça se prend. Hein, c'est ça, bonheur. C'est sortir tout à l'heure et que je vois un peu de fraîcheur quelque part, puis avec un peu de soleil, puis dans le soleil, je vois mes amis là-bas qui dans l'ombre, devant le soleil, avec les nuages, me disent bonjour comme ça, et je prétends qu'ils disent bonjour, c'est ça le bonheur. Ça dure 10 secondes, et puis après, c'est le bonheur, c'est le Campari que m'a fait la petite Christine, là. Hein? Et puis, voilà, le bonheur, qu'est-ce que c'est, hein? Le bonheur. Je te souhaite beaucoup de bonheur, à toi. Et à la petite, à Christine.
Salut
à
Léo.
Tout le monde.
Salut Léo, à bientôt.